RTS Info, Antoine Droux.
C'est la deuxième journée du groupe C de l'Eurofoot aujourd'hui. En fin d'après-midi, l'Italie et la Croatie ont fait match nul un partout. La deuxième rencontre du jour voit s'affronter l'Espagne et l'Irlande à Gdansk, où l'on vous retrouve, Romain Rosang. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Pour l'instant, c'est l'Espagne qui domine et qui mène 1-0 face à l'Irlande.
Et oui, but marqué après 4 minutes déjà par Fernando Torres, qui a récupéré une balle mal dégagée dans les 16 mètres pour battre d'un tir puissant sous la latte le gardien Shay Given. Départ idéal donc pour les Espagnols qui dominent cette partie. Mais attention quand même aux Irlandais, surtout avec 11 degrés au thermomètre et sous la pluie. On sait qu'ils ne vont rien lâcher. D'ailleurs, la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était à la Coupe du Monde 2002 et l'Espagne avait difficilement éliminé l'Irlande au pénalty en 8e de finale. Vicente Del Bosque, l'entraîneur espagnol, a procédé à un changement par rapport au premier match, avec donc la titularisation de Torres à la place de Fabregas. Torres qui disait après la partie contre l'Italie que l'Espagne n'avait pas l'habitude de ne marquer qu'un seul but par match. Eh bien, pour l'instant, c'est bien parti. À noter que les Irlandais doivent au minimum obtenir un point ce soir, sous peine d'être éliminés.
Un match à suivre également à la TV, sur RTS2 ainsi que sur Internet à l'adresse rtsport.ch. Et l'on vous retrouve, Romain Rosang, dans notre prochain bulletin d'information pour la suite de cette rencontre. Aung San Suu Kyi a dû interrompre sa conférence de presse peu avant 20h ce soir à Berne. Éprouvée par la première journée de son voyage en Europe et par le décalage horaire, l'opposante birmane a été prise de vomissements. Son état ne semble toutefois pas inquiétant. Le porte-parole du département fédéral des affaires étrangères a lui aussi évoqué le jet lag pour expliquer ce malaise. Aung San Suu Kyi a dû annuler le repas officiel de ce soir. Des centaines de personnes ont manifesté ce soir à Berne contre la révision de la loi sur l'asile. Les participants ont critiqué notamment le vote du Conseil national sur l'arrêt de l'aide sociale pour les requérants qui devraient désormais se contenter de l'aide d'urgence. Les parlementaires qui sortaient du palais fédéral ont subi les sifflets et les huées des participants. Les observateurs de l'ONU en Syrie décrivent une ville de Afet où une forte odeur de mort est dans l'air. Une ville où la plupart des bâtiments gouvernementaux ont été incendiés de l'intérieur. La mission des Nations Unies souhaitait se rendre depuis une semaine dans cette ville assiégée et bombardée par l'armée syrienne. Aujourd'hui, les violences ont encore fait 46 morts à travers le pays. Le directeur sportif du club de football Atlético Madrid fait l'objet de poursuites avec 19 autres personnes. Il est soupçonné d'avoir blanchi de l'argent, de la drogue. Des liens avec des organisations de narcotrafiquants colombiens et mexicains sont évoqués. Le beau finira de s'imposer demain en Suisse romande malgré quelques passages nuageux le long du massif jurassien. Il fera jusqu'à 28 degrés dans l'après-midi. Le week-end s'annonce lui aussi beau et chaud avec toutefois un risque d'orage en fin de journée.
Infotrafic RTS.
Le contournement de Berne vient de rouvrir entre les jonctions de Forsthaus et de Neufeld en direction de Zurich. Le trafic est cependant perturbé, il ne s'écoule que sur une voie en direction de Zurich.
Dimanche 17 juin, la rédaction radio de RTS Info vous propose une émission spéciale votation et élection de 12h30 à 19h sur la première. Plus de 6 heures de direct pour suivre les résultats des objets fédéraux et cantonaux, sans oublier les importantes échéances électorales, notamment en Grèce et en France. Résultats, analyses, débats, ce dimanche de 12h30.
Drôle d'histoire avec Fémina.
Drôle d'histoire, Karine Delphini.
La mort. Ta-na-na-na. Elles vont être drôles, hein, nos histoires. Bonsoir. Bah, on peut quand même parler de la mort, non? C'est ce qu'on va faire au travers de quelques récits avec Catherine Gaillard-Saron, Marie-Ange Guillaume et Marie-Christine Buffa. Que des dames. Elles sont très bien, ces femmes. On va glisser un homme ou deux, tout de même, dans l'émission. On pourrait déjà mettre en régie Ghislain Butcher. Et puis pour les chansons, bah non, c'est encore une dame, Nathalie Schauenberg. Alors vous êtes cernée, là. Et puis d'ailleurs, qui va chanter en premier? Une femme, Salomé Leclerc.
Ah oui. partait ensemble. Quand se lèvera le vin, on pourrait faire la route sans bagage. Tu me diras que l'on
partir ensemble, Salomé Leclerc. Allez, venez, on vous embarque dans une histoire plutôt mystérieuse. La dernière garde, c'est une nouvelle tirée du livre Un fauteuil pour trois de Catherine Gaillard-Sarron aux éditions Plaisir de lire. Elle avait réussi à s'échapper en prétextant de la fatigue, les mauvais chemins et surtout un rendez-vous important tôt le lendemain. Personne ne l'avait vraiment retenue. Ses hôtes avaient juste un peu insisté pour la forme. La fête continuerait sans elle. Et c'est sans regret qu'elle referma la porte sur les rires et les flonflons. Dehors, la nuit était glaciale. Il avait beaucoup neigé ces derniers jours. Et sous le ciel piqueté d'étoiles, le paysage, minéral et surréaliste, étincelait de mille reflets d'argent. Mais Maud ne s'arrêta pas au spectacle scintillant sous la lune, le froid intense la transperçant de ses aiguilles acérées. Elle s'engouffra dans sa voiture, mille moteurs en marche, le chauffage à fond et démarra. Le tableau de bord indiquait une température extérieure de moins 29 degrés. Elle nota machinalement l'heure, 11h50, et la date 29 janvier 2005. Elle roulait prudemment, lentement, ses yeux brûlants et rougis par la fumée, scrutant la route recouverte de neige glacée. Maud habitait la région du Jura français depuis une dizaine d'années. Elle aimait en contempler les paysages superbes et presque sauvages, mais elle supportait mal les conditions climatiques qui y sévissaient l'hiver. Lorsqu'elle avait vu le temps, elle avait hésité à prendre la route. Un instant, elle avait même songé à appeler son amie à la Brévine pour se décommander. Au dernier moment, pourtant, elle avait choisi de se rendre à cet anniversaire. Après tout, la fête ne se déroulait qu'à une quinzaine de kilomètres de chez elle et cela lui changerait les idées. Elle sortait peu et les invitations étaient rares à son âge. À l'instar de son amie ce soir, elle avait fêté ses 68 ans au début du mois de décembre. C'est d'ailleurs pour fuir un peu son isolement, qu'elle avait vendu la maison familiale au décès de son époux et loué un petit appartement aux environs de Morteau. Quant à ses deux enfants, ils vivaient et travaillaient à l'étranger et leurs visites étaient rares. Dans la voiture, le chauffage était enclenché depuis 5 bonnes minutes, mais Maud ne parvenait pas à se réchauffer. La buée couvrait une partie des vitres et malgré ses lunettes, elle avait de la peine à distinguer la route. La bise soufflait à nouveau et tout se confondait dans un blanc uniforme. Habituellement, lorsqu'elle conduisait de nuit, elle pouvait suivre la ligne blanche. Mais là, elle n'avait plus aucun repère. Oh, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi avait-elle si froid? En dépit des gants de laine qu'elle portait, ses mains étaient complètement gelées. Et puis cette intense fatigue qu'elle ressentait depuis un moment. Elle n'avait menti qu'à moitié à son amie tout à l'heure. Elle se sentait terriblement lasse, soudain, comme si son énergie fuyait par tous les pores de sa peau. C'était vraiment à plat. Maud jeta alors un regard à la montre du tableau de bord et constata qu'il était presque minuit. Le calendrier numérique amorçait le changement de date. La voiture arrivait à présent dans la forêt, au lieu dit la garde. Maud appréhendait cet endroit. Le verglas y était fréquent et la forte déclivité rendait la route encore plus dangereuse en hiver. Les mains engourdies par le froid, elle se tenait crispée sur le volant. Sa voiture était équipée de pneus à clous, mais elle n'avait pas l'habitude de rouler sur la neige. Elle aborda la pente, un peu rapidement. Elle ne sentait plus ses pieds et ses yeux larmoyaient à force de se concentrer sur sa conduite. Et soudain, un chevreuil affolé jaillit dans les phares de la voiture. Surprise, Maud donna un violent coup de volant pour l'éviter et fit un écart. Elle contrebraqua immédiatement pour redresser, mais elle roulait trop vite. Et paniquée, elle planta alors instinctivement sur les freins et perdit la maîtrise de son véhicule, qui se mit à déraper et glisser sur la chaussée verglacée. En une seconde, elle vit défiler, balayée par la lueur des phares, la masse compacte des sapins alignés de chaque côté de la route. Immenses et sanglés dans leurs armures étincelantes, ils la regardaient passer à toute allure, lui faisant comme une haie d'honneur. Maud aurait été incapable de dire comment elle était parvenue à rentrer à la maison. Après l'embardée, elle avait probablement perdu connaissance. Mais elle était bien là à présent, dans sa voiture et devant son immeuble à Morteau. Elle ne se souvenait plus de rien, hormis des sapins. Depuis qu'elle était partie en glissade, seule persistait dans son esprit amnésique l'image de ces conifères raides comme des soldats au garde-à-vous. Complètement sonnée, elle est absente, elle promenait maintenant son regard incrédule sur le tableau de bord, essayant vainement de raccommoder cet accroc temporel qui déchirait son présent. La pendule indiquait 20:00. C'était donc écoulé 20 minutes depuis qu'elle avait dérapé. Et le calendrier marquait cependant toujours la date du 29 janvier. Et c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que la date n'a pas changé ? Décidément, cette voiture mérite une bonne révision. Maud ne semblait pas blessée, elle avait juste terriblement froid. Un froid brutal, paralysant comme le gel qui pétrifie aussitôt tout ce qu'il touche. Et puis cette fatigue lancinante qui l'écrasait de tout son poids. Elle avait tellement sommeil que ses paupières se fermaient toutes seules. La perspective d'un bon thé brûlant, de son lit tout proche, la rassasia un peu. Elle était immensément soulagée d'être enfin arrivée à bon port. Maud sortit de sa voiture, se dirigea vers l'entrée principale de son immeuble ancien et vétuste. Quand, après 1000 efforts, elle réussit enfin à pousser la lourde porte, un souffle glacé lui cingla le visage et elle crut défaillir. Non, elle n'en pouvait vraiment plus, elle était à bout, exténuée. Jamais de sa vie elle n'avait ressenti un froid pareil, une telle envie de dormir. De ses doigts gourds et maladroits, elle chercha l'interrupteur. Non, il ne fonctionnait pas. Elle insista un instant, puis s'avisa que le gel pouvait en être la cause. Par prudence, elle renonça également à utiliser l'ascenseur. Et avec difficulté, elle se mit alors à gravir les escaliers jusqu'au deuxième étage. Pourquoi faisait-il si froid ici également? Toutes les installations étaient-elles tombées en panne? Son corps n'était plus qu'un bloc de glace qu'elle bougeait avec une peine infinie. Et plus elle montait, plus la température semblait descendre. Rigide comme une statue de pierre, elle atteignit enfin le palier de son appartement. Sous la clarté lunaire, elle s'y reprit à plusieurs fois pour ouvrir sa porte, tant ses doigts ankylosés refusaient de lui obéir. « Mon Dieu !» pensait-elle avec angoisse. « Mais comment se fait-il que j'ai si froid ?» Elle pénétra dans son petit trois pièces avec l'unique idée de se faire du thé et de se mettre immédiatement au lit pour se réchauffer. Mais ici aussi, l'interrupteur ne fonctionnait pas. Soudain, alertée par quelque chose d'inhabituel, elle se figea. Une odeur étrange flottait dans l'air et l'obscurité semblait agitée d'un mouvement anormal. Oppressée par la densité des ténèbres, Maud eut le net sentiment que des ombres se mouvaient tout autour d'elle. Elle entendit même distinctement des murmures, comme si des gens parlaient à voix basse. Terrorisée, elle se mit brusquement à hurler. Et ses dents s'entrechoquaient, son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle eut la certitude qu'il allait sortir de son corps. Elle le sentait bondir comme un cheval fou et distendre son enveloppe corporelle. Son enveloppe corporelle. Maud s'aperçut alors que son corps était en train de disparaître. Si l'instant d'avant, elle était pareille à un bloc de glace, elle était maintenant en train de se liquéfier sous ses propres yeux. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Elle était complètement paniquée à présent. Ses yeux s'étaient un peu habitués à la pénombre et elle regardait sans le reconnaître cet appartement où elle vivait depuis 10 ans. Mais où étaient ses meubles? Et ses photos? Où étaient passées toutes ses affaires? Elle se crut en plein cauchemar et se pinça jusqu'au sang dans l'espoir de se réveiller, mais ne se réveillait pas. Et tout à coup, une voix chevrotante de petite vieille troua le silence. « N'ayez pas peur, Madame Tétis. Personne ne vous veut du mal. Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi ?» lança Maud, terrorisée en cherchant du regard d'où venait la voix. « Mais je suis chez moi, Madame Tétis. Nous sommes tous chez nous. » dit la voix avec un petit rire amusé qui lui fit froid dans le dos. Maud entendit alors d'autres gloussements moqueurs s'élever dans le salon et ses poils se hérissèrent sur sa peau. « Faisons les choses dans l'ordre, voulez-vous ?» reprit la voix. « Tout d'abord, je suis Madame Rovray, la locataire précédente, et mes amis au salon sont les locataires qui ont habité cet immeuble avant moi. » Une onde de murmures approbateurs parcourut la pièce. « Savez-vous, reprit Madame Rovray, que cet immeuble date de 1505 et que, bien qu'il ait déjà été maintes fois rénové, ses fondations sont toujours d'origine ?» Un vieil alchimiste vivait jadis dans cet édifice d'apparence modeste. Il n'a peut-être pas réussi à changer le plomb en or, mais il a fait mieux, Madame Tétis. Il est parvenu à transmuter la mort en vie. Il a découvert l'alchimie de la vie. Et depuis sa mort, son secret, enterré et mêlé à la terre de ses fondations, agit toujours sur nous. inexplicablement. Autour d'elle, respectueuse, les voix s'étaient faites silencieuses. « Vous comprendrez, poursuivit-elle au bout d'un moment, que nous accordions autant d'importance à ce bâtiment. Nous sommes en quelque sorte les descendants expérimentaux de cet alchimiste et nous nous devons de protéger, de préserver ce lieu de toute destruction. Il en va de notre survie. Tant que ces fondations existeront, nous existerons aussi. Nous en sommes les gardes, les soldats, dit fièrement Madame Rovray. Toujours debout dans l'entrée, Maud semblait figée de stupeur. Elle tremblait de tous ses membres, comme chancelante au bord de ce monde inconnu qui l'attirait inexorablement vers son néant vertigineux. Autour de Maud, pareil à des insectes vrombissants, les voix chuchotaient dans un bruissement incessant, approuvant chaque parole de leur locataire en chef. « Vous avez eu fin nez de choisir cette vieille bâtisse, » reprit celle-ci d'un ton complice. « Mais nous devons vous avouer toutefois que nous avons, comment dire, une certaine influence sur le choix des locataires. Nous sommes évidemment très attentifs à leur profil. » Nous les préférons tranquilles, vieux, sans enfants et sans animaux. Ces derniers causent trop de ravages. Et puis la curiosité est notre ennemi juré. Aussi, lorsqu'un locataire ne nous convient pas, nous n'hésitons jamais. Quelques manifestations très particulières de notre cru suffisent en général à régler rapidement le problème. Mais vous, Madame Tétis, admit Madame Rovray. « Vous avez plu immédiatement à tous les locataires. C'est très rare, vous savez. » Une rumeur d'assentiment s'éleva du régiment des ombres. « Voyez-vous, la tradition veut que ce soit toujours le dernier locataire à avoir quitté la maison qui vienne accueillir le suivant. Et la prochaine fois, c'est vous qui serez à ma place. » Mais pour l'heure, au nom de la garde des blancs soldats, je vous souhaite la bienvenue, Madame Tétis. Elle ponctua sa phrase d'un petit rire aigre qui sonnait comme un glas. Maud était devenue presque aussi transparente que les autres à présent, et il lui sembla que les voix s'intensifiaient autour d'elle. En dépit de sa peur, elle avait de plus en plus froid et sommeil. Nous sommes là pour vous escorter, Madame Tétis. Entendit-elle résonner dans sa tête. « Pour vous escorter !» reprit le cœur des voix avec de petits claquements de langues humides. Maud se sentit soudain sur le point de perdre connaissance. Une sorte de léthargie gluante et incontrôlable semblait s'emparer de son corps et de son esprit. Au milieu des encouragements et des bruits de bouche, elle perçut cependant encore avec netteté la voix désagréable de Madame Rovray qui clamait avec emphase « Ne vous inquiétez pas, Madame Tétis. Vous êtes sous bonne garde, sous la garde des blancs soldats. La dernière, Madame Tétis. » La voix, qui se voulait rassurante, emplissait à présent les oreilles de Maud et retentissait dans son esprit. « La dernière garde, Madame Tétis. La dernière avant le rien. » La voix chevrotante se perdit dans une cascade de rires déments et dégénérés qui la glacèrent jusqu'à l'âme. Au salon, le carillon d'un morbier franc-comtois sonna soudain trois coups graves et sonores. À cet instant précis, Maud sentit quelque chose se déchirer profondément en elle, comme si on lui arrachait la peau. Elle éprouva un sentiment indicible de vulnérabilité, se sentit sombrer dans le vide, changer de dimension, de forme. Elle eut l'impression que ses yeux se liquéfiaient dans ses orbites, que son esprit s'incarnait dans le néant. Alors d'un seul coup, malgré l'obscurité, elle vit Madame Rovray, petite vieille édentée, tassée sur une chaise, et tous les locataires qui l'entouraient. Elle les vit tous, chenus et décrépits, qui lui souriaient de leurs mâchoires béantes et noires. C'est en faisant leur tournée de salage, vers 5 heures du matin, que les employés des ponts et chaussées découvrirent une voiture accidentée. Selon la police, l'accident qui s'était produit entre la Brévine et Morteau, au lieu-dit la Garde, était certainement dû au verglas. On avait retiré de la carcasse une femme de 68 ans complètement gelée. Elle avait probablement perdu connaissance à la suite de son embardée et était morte de froid. Cette nuit-là, le thermomètre était descendu jusqu'à moins 29,1 degrés. Et à de telles températures, un évanouissement, même de courte durée, avait des conséquences tragiques. Si la victime n'était pas rapidement secourue, la mort était toujours au rendez-vous. Après examen du cadavre, le médecin légiste avait situé l'heure de la mort le 30 janvier, aux alentours de 3 heures du matin. Mais pour le garagiste, qui avait enlevé la voiture, l'accident s'était produit avant minuit, le calendrier indiquant toujours le 29 janvier.
Bye. Une île sans elle, c'est comme un exil. Une lune sans miel, double volatile. Une île au loin, paradis créole, à fleur de rien, inutile atoll. Une île sans elle, devant la mer d'huile, triste aquarelle d'un ciel immobile. Une île sauvage, en deuil d'une idylle, n'est qu'un rivage d'océan hostile. Mille milles, superficielle, Éden anglophile. Une île de rêve, tout en sable blanc, n'est plus qu'une grève où s'échoue le temps. Rien qu'une grève où s'échoue le temps. Un archipel tenu par un fil. Une île sans elle, adieu Bougainville. C'est un hôtel de n'importe quelle ville. Rien qu'un hôtel de n'importe quelle ville.
Don't leave me, ne me quitte pas, Regina Spektor, suivie d'Henri Salvador, une île sans elle sur la première. Tout le cimetière en parle, un livre qu'on a ouvert en début de semaine, livre de Marie-Ange Guillaume, publié aux éditions Le Passage. Tout à l'heure, on vous a emmené dans la maison de Maud. Cette fois-ci, on vous emmène dans une maison de retraite qui s'appelle la Pinède.
Une drôle d'histoire.
Le meilleur dans l'œuf, c'est le jaune. Alors maintenant que j'ai 87 ans, ils vont pas m'emmerder avec leur cholestérol. C'est comme ça ici. Ils veulent ton bien de gré ou de force. Ils veulent que tu claques avec un cholestérol à moins de 2 grammes. En pleine forme et d'attaque pour conquérir le monde. Lever 6 heures, puisque le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quel monde ? La Pinède ? Maison de retraite en milieu urbain avec 2 platanes au milieu des gravillons? Ça n'a jamais fait une pinède, 2 platanes. Moi, je suis venue là parce qu'on acceptait les animaux domestiques. Pas les varans, ni les boa constrictors, mais Picasso, ça allait. C'est mon chien, Picasso. Moi, j'ai trouvé la pinède et j'ai embarqué Picasso. Et le matin, le monde m'appartient. Comme je suis redevenu vaillant, et après tout j'ai le droit de vote, eh ben il me laisse sortir. Alors je m'en vais renifler les trottoirs avec le chien. On fait une grande balade, on s'aère les bronches, on s'achète un steak haché pour lui, et un éclair au chocolat pour moi. Et on mange ça tranquille sur un banc. À midi pile, on rentre pour le poisson bouilli, patate bouillie sans beurre. Et puis après les trucs bouillis, je fais une sieste et un peu de sport avec Picasso. Je lui ai apporté tous ses joujoux, le hérisson, le crocodile, la girafe, le babar, le schtroumpf, et ils font tous pouic. Il vient me les poser sur les genoux, je les lance et il les rapporte en faisant pouic. 20 000 fois de suite. Et puis après, on fait une petite balade jusqu'au bistrot du port. Ça colle bien avec la pinède. Il n'y a pas plus de bateaux que de pain par ici. Et puis on s'installe à la terrasse. Je fume mon demi-paquet de clopes en vitesse. J'en profite, hein, vu qu'il me les hache menus avec mes poumons pleins de goudron, paraît-il. En sirotant un pastis avec une brouette de cacahuètes. Picasso regarde passer les chiennes et je regarde passer la vie. Autant dire qu'on est les rois du monde. Comme l'apéro m'a ouvert l'appétit, j'ai plus d'entrain pour manger la soupe sans sel et la compote sans sucre ajouté. Et puis après, on va au salon regarder la télé ou jouer à des jeux avec les vieux. Rami, tarot, belote, backgammon. J'aime pas les vieux, mais j'aime bien jouer. Il faut faire des concessions, hein, puisqu'on n'a rien sans rien. Quand j'étais encore dans ma maison, je m'étais même inscrit à un club de vieux, juste pour jouer. Ils tenaient à nous cultiver aussi. Et un dimanche, ils nous avaient emmenés visiter les musées parisiens. Des vieilleries, des antiques, des cubistes, des tapisseries de Bayeux. On a tout vu, on était claqués, à croire qu'ils voulaient notre peau. Et puis pour Noël, je m'étais inscrit à 2 clubs supplémentaires. Comme ça, j'avais eu 3 boîtes de chocolat, plus celle de la mairie. J'en avais été écœurée jusqu'à février. Mais le plus chouette, c'était le voyage à Lourdes avec tout le club. 8 heures de car, en comptant les arrêts pipi, pour se retrouver en plein ramassis d'éclopés, de tordus et d'agonisants perdus dans une forêt de bonnes sœurs, de cierges et de vierges en plâtre. C'était joli à photographier. J'avais fait un reportage que j'avais vendu à un journal de Cubéni. Vu que j'étais photographe de guerre dans ma jeunesse, je m'y connaissais en éclopé. J'étais quand même arrivée à me faire une copine en bonne santé. Elle venait juste prier pour son mari qui faisait office de légumes au rayon soins palliatifs. On en avait profité pour visiter un peu la région. C'est la dernière fois que j'ai fait des choses sexuelles avec une dame dans la verdure. C'était gentil, un peu pathétique, vu qu'on avait 132 ans à nous deux. Et Dieu merci, on ne s'est jamais revus. Elle vivait en Normandie, moi à Belleville, et son légume l'occupait à temps plein. Après les jeux, vers 21h, Pamela sonne le couvre-feu. « Elle est gentille, Pamela. Elle nous fait la bise à tous. Et puis, elle n'est pas dégoûtée avec ceux qui bavent, hein, ni même par ceux qu'il faut torcher et vidanger. » Après, je demande à Picasso s'il a envie de se promener, et il fait « ouaf ». Alors on y va, et puis on rentre se coucher. Je pose ma main sur mon petit toutou bien chaud, et je sens battre son cœur, et il m'empêche de ruminer les cauchemars où je me vois raide mort. Fini. Ça, c'est la semaine, les jours ordinaires, parce que le dimanche, ça se gâte. Ah oui, le dimanche, en plus de veiller à nos 2 grammes, il nous distrait. Le pôle gérontologie des pétunias nous envoie une association de bénévoles baptisée l'Ami des Papis. Laquelle sympathique association débarque avec une palanquée de mômes et de clowns. Pamela accroche des guirlandes dans la salle commune. On s'assied tous en rond sur des chaises, avec chacun un lardon à côté de soi. Et puis les 2 clowns au milieu, hein, celui qui a le nez rouge, les tatanes trop grandes, et puis l'autre en barboteuse blanche, le clown blanc. Le nez rouge cavale avec un jet d'eau sur la tête et se ramasse la gueule dans le tapis. L'autre lui fout une tarte et le pauvre bourre se met à pleurnicher. Et après il fouille ses 12 poches et il en sort une trompette cabossée dans laquelle il souffle un machin lamentable qui ressemble aux 3 premières notes de « Que c'est beau la vie » par Isabelle Aubray. Tu parles si c'est beau la vie, vu comme ça. Je peux pas blairer les clowns. Et le pire, c'est qu'ils nous font participer. Le clown blanc choisit une victime dans le cercle des chaises et lui demande de venir mettre une baffe au cornichon à 12 poches, comme si c'était des opilants. Enfin, ça fait quand même gondoler les mômes. Mais je peux pas blairer les mômes. Et je me ratatine tout petit sur ma chaise, avec Picasso sur les genoux, histoire de ne pas être choisi pour aller baffer le clown. Eh ben heureusement, ça dure seulement une demi-heure, les divertissements. À cause des débris qui roupillent sur leur chaise au bout de 3 minutes et qui ronflent en faisant des bruits de chasse d'eau. Ça leur mine le moral aux clowns bénévoles. Ils aiment les vieux, mais ça les désole de voir que c'est relatif, les bienfaits du rire. Enfin, malgré tout, ça les désole pas assez puisqu'ils reviennent quand même le dimanche suivant. Le bénévolat, hein, c'est un calvaire pour tout le monde. Bah heureusement, entre 2 dimanches, il y a les jours ordinaires. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Picasso et moi, on va au bistrot du port. Picasso et moi, on est heureux.
« was sitting there all by myself, listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit on this. Then I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on miss. Like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit on this. Baby, hit on miss. I gotta be me. Baby, hit on miss. You've got to believe. Baby, hit on miss. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody but yourself.
Hit or miss, Tom Jones. La mort rôde dans nos drôles d'histoires. Marie-Christine Buffat a sorti un livre aux éditions Xenia qui a pour titre « Le nombre de fois où je suis morte ». On peut mourir de faim, de honte, d'ennui, de désir, de jalousie, de culpabilité, de chaud, d'angoisse, de chagrin, de froid, de peur, de rire. Ce soir, d'impatience. Je n'aime pas attendre. L'attente, c'est du temps qui ne sert à rien. Avant, je fixais toujours mes rendez-vous chez le médecin à midi, de façon à ne pas chambouler mon planning. Résultat des courses, il m'obligeait à poireauter dans la salle d'attente. 25 minutes, parfois 30. Irrattrapable. Non, je ne tolère jamais plus de 30 minutes de retard. C'est ma limite. Plus c'est indécent. Elles le savent à présent, les assistantes de mon praticien. Je ne suis pas de la race de ceux qui attendent. Elle me fixe les rendez-vous tôt le matin. Si je suis la première patiente, on me salue et on m'invite à prendre place dans le cabinet. Tout de suite, c'est bien. Je n'aime pas attendre. Je ne prends plus les transports en commun. C'est pareil, toujours en retard. On ne peut pas s'y fier. S'ensuit une perte de temps considérable à déplacer le programme de la journée afin qu'il concorde au nouvel horaire. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est quand même pas compliqué. J'ai obtenu mon permis de conduire pour ne plus être dépendante du train. Je ne monte plus dans un bus à cause du guichet pour le ticket. Je me déplace en voiture. J'ai créé mon entreprise aussi, conceptrice de site web, afin de pouvoir travailler à domicile. Trop de feux rouges en ville. Et depuis cette mode des ronds-points, c'est devenu pire. Les conducteurs ne savent pas s'engager dans un rond-point. Le rond-point, c'est le principe de la fermeture éclair. Un après l'autre. Pas de quoi se tirer les cheveux. Mais pourtant, il y a toujours une file interminable de véhicules à l'arrêt. À cause d'une ou deux voitures qui n'osent pas tenir leur tour. On a beau klaxonner, rien n'y fait. C'est l'ennui quand je me rends chez mon médecin, à la première heure du matin. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de ronds-points. Quantité de choses ne peuvent être déléguées lorsqu'on n'aime pas attendre. Le ménage, par exemple. Impossible d'embaucher une femme de ménage. Trop lente. Oh, j'en ai fait l'expérience. Plusieurs. Je les regardais se non-activer depuis mon bureau. Pas d'entrain, pas d'élan. Souvent n'étonnant plus, j'ai arraché le chiffon de la main de ces femmes et astiqué moi-même l'étagère, devant elles, pour leur montrer, donner le rythme. Elles ne sont jamais revenues. Les restaurants, je n'y vais plus. Il m'est arrivé trop fréquemment, malgré une réservation préalable, de ne pas trouver ma table libre à l'heure dite. Enfin assise, je devais patienter 2 à 4 minutes qu'on veuille bien m'apporter la carte des mets. J'en profitais pour commander rapidement un apéritif au serveur et lui, sans sourciller, s'arrêter en chemin pour soit débarrasser, soit encaisser, soit s'enquérir de nouvelles consommations d'autres clients. Et pendant ce temps, ma soif n'était pas étanchée et mes nerfs se plaignaient douloureusement. Je ne vais plus au restaurant. Je prépare mes repas moi-même. Avec les courses que j'effectue en ligne, trop de monde dans les magasins, trop de files d'attente... Sans compter les étourdis qui omettent de peser tel légume ou tel fruit, cassant net le rythme de la caissière. Ou celui qui n'a pas contrôlé son produit et dépose sur le tapis roulant une boîte de conserve dont le code barre est illisible. Ou il manque d'argent comptant. Ou sa carte de paiement est démagnétisée. Ou il a oublié un produit inscrit sur sa liste et retourne en rayon sans considération aucune pour les clients suivants. Ou alors il connaît personnellement la vendeuse et sollicite des nouvelles de toute la famille, y compris les cousins éloignés. Non, j'achète sur Internet. On me livre. C'est un gain de temps. Je n'attends plus qu'une place se libère dans le parking. J'en ai fini des relations amoureuses. Ce jeu du chat et de la souris, aucune directivité. Le respect du protocole, on s'observe pendant des heures, on tente une approche mesquine, sous un prétexte fallacieux. Et s'en suivent des discussions soporifiques sur des sujets inintéressants. Le but de la manœuvre ne trompe personne. Autant éluder la partie ennuyeuse pour sauter directement à l'essentiel, éviter ainsi de perdre son temps en conjecture. Ce n'est pas apprécié. Convenance veut qu'on se conforme à certaines règles qui, ma foi, m'échappent. La finalité reste la même. On veut se toucher, on veut s'embrasser, on veut s'enlacer. En vérité, les hommes détestent qu'on leur ôte ce droit à la chasse. Ils ont besoin de viser longtemps avant de tirer. Question d'ajustement. Ils ont peur de trembler le moment venu. J'en ai fini de l'amitié aussi. Les amis apprécient surtout ce qu'on élude à leur avantage. Les amis exigent qu'on les accepte comme ils sont, mais ne veulent pas savoir comment ils sont. Il faut tourner autour du pot, noyer le poisson, prendre des gants. Ils ont fait les doigts après doigts pour n'importe quelle vérité bonne à dire, mais dure à entendre. En douceur. Sinon, ils se vexent. Il faut écouter aussi. Toujours. Longtemps. Ils ne tolèrent pas qu'on peine à ouïr un après-midi entier leur déboire ou leur joie. Je me fiche de savoir comment s'est passé un entretien d'embauche, par exemple. Ce qui m'intéresse dans le fond, c'est d'apprendre si l'ami en question a obtenu le poste. Faire durer le suspense. Quelle idée. Révéler le sexe de l'enfant à venir, enlève-t-il un soupçon de joie à la naissance? Pourquoi ne pas avouer tout de suite le nom de son amant, plutôt que d'expliquer par le menu détail les raisons qui ont poussé l'infidèle à tromper son conjoint? C'est fatigant, ça n'amène rien. Je n'ai pas de famille non plus. Pas de frère, pas de sœur. Mon père est décédé. Maman vit dans un établissement médical spécialisé. Elle ne me reconnaît plus. Je n'ai plus vraiment de la famille. Lors des visites, elle me confondait avec l'infirmière. Elle me proposait de changer sa couche ou d'ouvrir les fenêtres. Parfois, elle m'appelait Sybille, comme sa meilleure amie à 20 ans. Alors au début, je rectifiais. Je lui racontais des souvenirs, des anecdotes pour réveiller sa mémoire, des histoires de l'époque où j'étais enfant, des crises qu'elle subissait lorsque le repas tardait à être prêt. Ou mon incapacité à attendre le matin de Noël pour ouvrir mes cadeaux. Elle n'avait aucun souvenir du sang que je crachais à pleine bouche à force de tirer sur mes dents de lait récalcitrantes, ni des cheveux que j'avais coupés moi-même en raison de l'agenda surchargé de la coiffeuse. Elle m'écoutait d'un air absent, puis s'enquérait du dîner ou de ses chaussons. Au mieux, elle me pressait de l'accompagner au bal de la kermesse un prochain samedi. Chaque fois, des heures inutiles. Je n'y suis plus retournée depuis longtemps. C'est ce que j'ai expliqué à mon médecin, ce matin, après avoir pris connaissance de ma maladie. Grave, aucun espoir de guérison. Je lui ai coupé la parole quand il s'est mis à jouer les amis, relater les faits, expliquer les symptômes. Vous savez, l'histoire des gants, doigt après doigt. Il a hoché la tête. Je ne suis pas de la race de ceux qui attendent qu'on leur annonce un diagnostic. Inutile de détailler, je veux juste savoir combien de temps. Seule chose qui m'intéresse, c'est le temps qu'il me reste. 12 mois. 1 an et demi tout au plus. Je suis rentrée chez moi. La circulation était fluide, ça c'était bien. Inutile de forcer dans les ronds-points, j'ai garé la voiture sur sa place habituelle. Et puis comme l'ascenseur était occupé, j'ai grimpé les escaliers qui mènent à mon étage. Une fois à l'intérieur de l'appartement, je me suis dirigée vers la salle de bain. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie et j'ai avalé toutes les pilules qui s'y trouvaient. Ça devrait suffire. Je n'aime pas attendre.
L'autre bout du monde.
L'autre bout du monde, Émilie Loiseau. Avec Jacques Mourican, nous sommes depuis quelque temps « Mon amour et moi ». Petit récit écrit par Éric Masseret aux éditions Bernard Campiche, c'est tiré de son livre « Midi à l'ombre des rivières ».
Drôle d'histoire.
Mon amour et moi, pendant la nuit, on se fait du théâtre au lit.
On joue des rôles, quoi.
Roméo et Juliette, bien sûr.
Ou l'inverse.
Oh, Juliet, why do you leave me so unsatisfied? Acte 2, scène 2.
Romeo, my bounty is as boundless as the sea, my love is deep. The more I give to thee, the more I have, for both are infinite. Acte 2, scène 2.
Et comme personne ne nous interrompt, pas de chaperon, on se laisse aller, quoi.
C'est bien mieux que l'original.
Dans les rôles que nous jouons, nous laissons se développer le champ des possibles.
Pour qu'émerge l'évidence en chacun de nous.
L'évidence dans nos mises en scène de nous, c'est qu'on ne peut jouer autrement.
Sinon, ça serait faux.
Oui, jouer faux ne peut être vrai.
Ou l'inverse.
Ou l'inverse. Tu joues à quoi ?
Je ne joue pas, j'ai rien à jouer.
Tu me prends pour une idiote ? Tu crois que je vois pas que tu fais semblant ?
Mais semblant de quoi ?
Semblant ? Tu n'es pas vrai, tu joues un rôle, tu te caches. Tu es lâche, et puis menteur, et puis aussi tu...
Macbeth !
Le théâtre est une façon pour le couple de s'exprimer dans un espace de sécurité.
Où chacun sait que l'autre...
respecte et écoute.
À la distance qui convient.
L'autre comme une mise en perspective.
De la relation.
Ou l'inverse.
Ou l'inverse.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid. I could raise you in the tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay.
Il est temps de fermer nos livres.
Drôle d'histoire avec Fémina.
C'est Ghislain Butcher qui a réalisé cette émission et Nathalie Schauenberg a choisi les chansons. La ligne de cœur, c'est juste après les informations en compagnie d'Alain Maillard. Très belle fin de soirée sur la première. Il est 22h.